le 18-20.
Le 18-20, ce soir, sur la vie intellectuelle en France. Il ne vous aura pas échappé qu'en cette période électorale, le fond de l'air intellectuel est au pessimisme, au déclinisme. À entendre certains plus ou moins penseurs, plus ou moins médiatiques, la France serait à genoux et tout était mieux avant. Et l'avenir du pays serait dans son passé, chez nos ancêtres les Gaulois, chez Jeanne d'Arc, chez Jaurès, chez Colbert. Cette atmosphère réactionnaire est-elle nouvelle ? La vie intellectuelle se réduit-elle chez nous aujourd'hui à ce grand lamento ? Sommes-nous encore, comme on le croit, la patrie des idées et du débat intellectuel ? On en débat ce soir au téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr ou via Twitter avec le mot-clé Telson. On va démarrer avec Philippe qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu dans ce téléphone sonne.
Oui, j'aurais aimé proposer un sujet de réflexion. Et si les intellectuels pessimistes avaient raison ? Tout simplement, on refusait de les croire, comme les Troyens refusaient de croire Cassandre, qui ne prédisait que des malheurs, qui se réalisaient toujours, mais que, bon, on refusait de croire parce qu'on préfère toujours croire au mieux qu'au pire.
Très bonne question, Philippe. Merci beaucoup pour vous répondre. Ici Christophe Charles, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne et Laurent Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'université Paris 8. Vous avez tous deux dirigé La vie intellectuelle en France, deux volumes aux éditions du Seuil, de la Révolution française à nos jours. C'est une entreprise absolument monumentale qu'on va feuilleter avec les auditeurs de France Inter. Qui veut répondre sur... le pessimisme. Et s'ils avaient raison, les pessimistes, Christophe Charles ?
Oui, effectivement, il y a énormément d'indicateurs qui pourraient nous faire penser que la France n'a plus le rôle qu'elle pouvait avoir il y a 50 ans ou même il y a 30 ans parce que elle a perdu effectivement sa centralité en termes culturels, elle a perdu son influence dans des pays qui maintenant se tournent vers d'autres pays, etc. Mais je crois que ça serait voir que les côtés négatifs des évolutions contemporaines. Il faut aussi voir quand même que la France reste un pays de référence dans beaucoup d'endroits. J'étais au Brésil l'année dernière. Les gens sont tout à fait passionnés par ce qui se passe en France. De même, j'avais été invité en Chine il y a 3 mois et on s'intéressait beaucoup aux publications, aux idées qui venaient de France. Donc je crois que, bien sûr, il y a le poids de la référence américaine. Il y a la concurrence de l'anglais à l'échelle internationale. Mais la France garde encore une certaine aura à cause de son histoire, mais aussi à cause de ses réalisations qui sont nombreuses et dont Laurent Jean-Pierre va nous parler peut-être.
Avec grand plaisir, Laurent Jean-Pierre, sur la question du pessimisme que posait notre auditeur.
Oui, on peut faire quelques observations simples. Il y a beaucoup plus de producteurs d'idées aujourd'hui qu'hier. Il y a une diversité dans ces producteurs d'idées, une richesse des idées produites qui est plus grande, qui va avec un revers. C'est vrai que c'est les mondes intellectuels, c'est ce qu'on décrit un peu dans l'ouvrage, sont des mondes fragmenté, donc les idées communiquent peut-être pas aussi facilement entre elles qu'on pourrait le croire, les producteurs d'idées aussi, malgré les moyens de communication, malgré les circulations internationales, mais en tout cas, il y a plus aussi d'investissement dans la création, dans la recherche, dans la pensée, même si on peut se plaindre effectivement de difficultés dans l'université ou ailleurs. Et donc en réalité, si on a une approche un peu à distance, quantitative, il y a aucune raison de penser qu'on est dans un moment de déclin de la pensée française. On est plutôt dans un moment d'abondance et de richesse, et notre difficulté, c'est justement de faire avec cette abondance, d'apprendre à faire aussi avec une attention nouvelle pour gérer cette abondance. Et on a essayé de montrer que c'était ça finalement le vrai problème qui se cachait derrière le faux problème du déclin de la pensée française.
Ça, c'est un thème récurrent dans l'histoire de la vie intellectuelle française, le déclin de la vie intellectuelle française.
En tout cas, il y a plusieurs époques où ça s'est passé. Je cite un texte d'Anatole France de 1880. Qui se demande pourquoi sommes-nous tristes, et il fait l'inventaire de tout ce qui ne va pas en France, puisqu'on est après la défaite de 70, on est dans un moment où la France est en recul sur le plan économique par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre, je ne fais pas d'allusion aux contemporains, et un moment aussi où il y a de très fortes tensions à l'intérieur de la France avec la montée de la xénophobie, de l'antisémitisme, là aussi je ne fais aucune allusion à la situation d'aujourd'hui, donc il y a des moments tout ça qui rappellent la période d'aujourd'hui, donc je pense qu'il faut, justement, par le long terme, montrer que c'est des phases et qu'on pourra peut-être rebondir. En tout cas, nous espérons qu'on pourra rebondir par rapport à ces moments un peu de dépression.
Mais est-ce qu'il y a une tradition tradition conservatrice réactionnaire dans la vie intellectuelle française, Christophe Charles ou Laurent Jean-Pierre?
Oui, ça incontestablement, ça commence dès la Révolution française, hein, puisque dès la Révolution française, il y a toute une série de penseurs qui essayent de montrer que la Révolution française est une catastrophe, qu'elle a abouti à complètement désorganiser la France, à faire bousculer toutes les institutions vénérables que la monarchie avait mises en place. Et donc, il y a tout un discours anti-révolutionnaire, donc réactionnaire, qui va continuer tout au long du XIXe siècle et qui va encore avoir des résurgences au moment du régime de Vichy, qui est inspiré en grande partie par une idéologie aussi de ce type. Donc, là aussi, rien de très nouveau par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les néo-réactionnaires.
Et cette tradition donc se poursuit, c'était ma question, aujourd'hui, chez les néo-réactionnaires.
Alors, ça se poursuit, mais sur d'autres thèmes. Évidemment, on n'est plus dans le débat sur la Révolution française. On pense que c'est une question à peu près...
qui est réglée, ouais.
On n'est pas non plus sur la remise en cause du régime politique, la République, mais il y a plutôt tout un discours d'inquiétude par rapport à la démocratie, par rapport à l'adhésion à la classe politique, par rapport à la capacité des hommes politiques de dominer les problèmes contemporains. Et donc ça aussi, ça nourrit évidemment un discours nostalgique par rapport à la grandeur, par exemple, de l'époque gaulliste.
Mmh. Laurent Jean-Pierre, sur cette tradition conservatrice, contre-révolutionnaire, réactionnaire.
Oui, j'aimerais prendre la question par un autre bout. Ce qu'on essaye de montrer aussi, c'est qu'au fond, bon, à chaque époque, il y a effectivement des intellectuels réactionnaires, mais à chaque époque aussi, il y a des intellectuels progressistes. Et le discours contemporain qu'on a entendu souvent l'année dernière, qu'on entend régulièrement, il n'y a plus d'intellectuels progressistes en France, etc. Il y aurait un tournant réactionnaire de la pensée française. On essaye de le relativiser historiquement, mais aussi en s'interrogeant sur pourquoi on a ces effets, au fond, d'invisibilisation de certaines pensées, etc.
Pourquoi ?
Alors pourquoi ? Bon, il y a plusieurs hypothèses, mais une des hypothèses qu'on essaye de documenter, c'est qu'au fond, il peut y avoir des écarts entre, au fond, la production d'idées et d'autres mondes, le monde journalistique, le monde politique, le monde économique, qui prêtent plus attention de la même manière aux idées produites. Il y a une distance qui s'accroît entre les politiques et les intellectuels. On en a des témoignages tous les jours dans, disons, l'actualité récente. Et donc, c'est un des facteurs qui fait qu'on peut, à un certain moment, ne plus voir des idées progressistes et ne voir que des idées réactionnaires.
On va donner la parole à Régis de Chambéry. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir messieurs, je vous remercie pour de me donner la parole. J'ai entendu sur votre antenne il y a quelques jours une sénatrice dont je n'ai pas retenu le nom qui prononçait cette phrase que j'ai trouvée très à propos. La France des Lumières n'est-elle pas en panne d'électricité ? Alors ma question c'est, est-ce que l'ensemble de la classe politique et les médias, les journalistes ne devraient-ils pas méditer très sérieusement cette phrase ?
Merci Régis pour cette question qui repose celle du progressisme, Christophe Charles.
Oui, alors je pense que vous faites allusion au fait qu'effectivement, l'image traditionnelle, c'était que ce qui dominait dans la vie intellectuelle, en tout cas jusqu'aux années 60, 70, 80, c'était quand même les intellectuels de gauche, parce qu'ils apparaissaient comme plus novateurs, ou en tout cas, ils apportaient des idées nouvelles. Mais je crois qu'il y a encore aujourd'hui des pensées alternatives, en particulier, il suffit de penser au rôle de l'écologie qui, pendant très longtemps, a été très marginale et qui, quand même, maintenant, est reprise, y compris par des partis qui, autrefois, la trouvait un peu inappropriée, donc même les partis conservateurs sont obligés de tenir compte de ce genre d'idées. Donc effectivement, à partir du moment où ces idées de gauche sont absorbées par les partis conservateurs, on a l'impression qu'il n'y a plus d'idées de gauche, mais ça veut dire simplement qu'elles ont gagné d'un certain point de vue, puisque tous les partis ont un volet écologiste dans leur programme. C'est la même chose par rapport au débat autour de l'enseignement. Autrefois, il y avait un grand débat, est-ce qu'il faut ou non démocratiser l'enseignement ? Je crois qu'aujourd'hui, même dans les nombreux programmes que nous avons dans la primaire à droite, aucun ne propose de revenir à l'école de Jules Ferry stricto sensu, c'est-à-dire avec une coupure entre le niveau primaire et le niveau secondaire, ou avec des barrières très élevées pour accéder à l'enseignement supérieur. Donc d'un certain point de vue, ces idées qui étaient les idées des Lumières, d'un certain point de vue, la diffusion de l'instruction, ont gagné, et du coup on a l'impression qu'elles n'existent plus, mais elles ont tellement gagné qu'on les voit plus. Voilà, donc c'est un peu ça aussi, les effets du succès de certaines idées. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les idées progressistes ont gagné, mais enfin, en tout cas, on peut constater ces phénomènes-là.
Laurent Jean-Pierre, sur les Lumières.
Oui, bah, la question de notre auditeur, effectivement, prolonge un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire ce problème, disons, d'une distance sociale ou d'un désintérêt croissant, disons, du monde politique pour le monde des idées dont on peut voir plusieurs témoignages. Hein, bah, par exemple, le fait que les partis politiques, maintenant, s'adressent, au fond, à des bureaux, des associations, des think tanks, comme on dit, spécialisés pour produire leurs idées au lieu de les avoir, d'avoir une production d'idées en interne. On peut le voir aussi dans la formation du personnel politique, hein, qui est plus du tout la même. Les diplomates écrivains, les savants ministres, il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y en avait autrefois au XXe siècle, comme on a essayé de le documenter. Donc c'est vrai que il y a une distance plus grande. Il y a un personnel politique qui est probablement beaucoup plus désintéressé par les idées et peut-être même plus inculte qu'il ne l'était autrefois. Et donc cette distance peut aller jusqu'à la défiance anti-intellectualiste. Et du coup, même s'il y a des idées progressistes qui sont produites très très largement dans beaucoup de domaines, si elles atteignent pas l'espace public, si elles sont pas relayées dans l'espace politique, elles sont un peu lettre morte.
Jacques, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez d'Angers, nous vous écoutons, vous avez la parole sur France Inter.
Oui, moi, ma question est simple, mais je vais parler un peu auparavant. Hein. Est-ce que la pensée s'arrête aux frontières? Je veux dire, vous parlez de la pensée française, ça me fait un peu rigoler. Est-ce que ça veut dire que la pensée allemande n'est pas pareille que la pensée française?
C'est une très bonne question.
Et je veux dire, la pensée française, si on regarde dans le temps, on a fait les colonisations avec les Britanniques, une bonne partie des Européens. On a tué des dizaines de millions de personnes, hein, d'une manière ou d'une autre, différente. C'est ça la pensée française? Alors moi je voudrais savoir, je comprends rien à ça. Et je trouve ça un peu ridicule de parler de la pensée française.
Eh bien écoutez, on va prendre cette question très au sérieux, Jacques, parce que de très nombreux chapitres de la vie intellectuelle en France, de très nombreux chapitres sont consacrés précisément à cette géographie de la vie intellectuelle. Qui veut répondre, Christophe Charles?
Oui, justement, dans le livre, nous avons réagi contre cette vision purement nationale de la vie intellectuelle. Nous montrons en permanence qu'il y a des échanges entre la France et les pays voisins, voire des pays beaucoup plus lointains. Il suffit penser au rôle de l'Amérique latine dans certaines époques par rapport à des combats politiques des années 60. Nous avons eu aussi une grosse influence de pays très lointains comme le Japon à certains moments du 19e siècle, etc. Et inversement, ces pays souvent se sont intéressés à nos idées ou à nos penseurs, mais en les transformant pour se les approprier et en faire parfois tout à fait autre chose. Il suffit de voir comment la pensée de Sartre est devenue quelque chose de très particulier, soit aux États-Unis, soit en Allemagne. Donc effectivement, il est tout à fait vrai qu'il faut regarder ça à une échelle beaucoup plus large que la seule limite de l'Hexagone.
Laurent Jean-Pierre.
Oui, ce livre n'est pas du tout un monument patriotique, je suis complètement d'accord.
C'est pas un roman national, comme on dit aujourd'hui.
Ce qui a été dit par...
Il n'y a pas des Gaulois.
Par votre auditeur, non, on insiste beaucoup, au contraire, sur les apports étrangers de la... C'est une vie intellectuelle en France, hein, et pas de la France, et donc du coup, effectivement, l'enjeu, disons, de l'attraction de Paris, mais aussi, effectivement, les apports qui viennent régulièrement d'exilés, de migrants, de réfugiés, dans la vie intellectuelle française depuis le 19e siècle, ont été soulignés, et doivent toujours être soulignés. Si on entend faire une histoire intellectuelle nationale. L'enjeu, c'est pas tant de savoir si effectivement la pensée française est grande ou petite, rayonne ou rayonne pas. C'est de savoir comment elle est construite, par quelles hybridations, par quelle circulation. C'est ça qui nous
intéresse. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement lié, tout de même, entre les idées et la France?
Alors, ce qu'il y a...
Christophe Charles.
Historiquement, c'est vrai que du fait du lien qu'on a établi très tôt entre les idées des Lumières, donc, dont on parlait tout à l'heure, et ce grand événement fondateur de l'histoire française qu'est la Révolution française, il y a eu l'idée de dire que finalement, sans ces idées, il n'y aurait pas eu la Révolution française, ce qui est un petit peu abusif. Enfin, il y a quand même eu un effet réel des penseurs du XVIIIe siècle sur les réalisations politiques et les projets politiques qui ont lieu à la fin du XVIIIe et pendant une partie du 19e. Donc c'est ça qui a créé cette idée qu'il y a une interaction spécifique en France, mais si vous regardez d'autres pays, l'unité italienne par exemple, hein, la construction de l'État italien a été préparée là aussi par toute une série d'intellectuels, de poètes, de savants dans la période intérieure. De la même façon, l'unité allemande a été préparée par des philosophes, par des hommes de lettres, etc. Donc je crois que c'est un phénomène plus général que ce qui s'est passé en France, mais c'est vrai qu'en France...
Un phénomène européen ?
Oui, européen et même américain, puisque on sait très bien que la plupart des premiers présidents des États-Unis étaient des gens qui s'étaient nourris de la philosophie des Lumières, Thomas Jefferson et des gens comme ça, ou Benjamin Franklin. Donc on voit bien que c'est un phénomène international.
Mais l'intellectuel né en France, Christophe Charles.
Alors le mot lui-même, effectivement, qui est assez récent, puisqu'il date de la fin du 19e siècle, naît en France à partir de l'affaire Dreyfus et ensuite se diffuse et traduit, transposé dans les autres langues, hein, dans la plupart des langues européennes. Il est fondé sur les racines françaises, ce qui montre bien que cet événement a eu un écho international, mais parce qu'il y avait justement des parties communes entre les communautés intellectuelles des différents pays d'Europe, notamment l'attachement au débat démocratique, la volonté d'ouvrir l'esprit critique par rapport au pouvoir en place, et tout ça, c'était des problèmes qui n'étaient pas que français, qui se trouvaient dans la plupart des pays.
Comment on peut définir l'intellectuel français au moment de sa naissance, au moment de l'affaire Dreyfus ?
Alors, au moment de sa naissance, c'est simplement l'idée que les citoyens doivent être vigilants par rapport à des erreurs ou à des impasses du pouvoir politique, puisque le point de départ, c'est une erreur judiciaire et la volonté de revenir sur cette erreur judiciaire. Et puis, ça a ensuite pris une ampleur beaucoup plus grande parce que le pouvoir s'entêtant dans son refus de revoir le procès Dreyfus, ça a obligé à mobiliser beaucoup plus largement, au-delà des intellectuels, des groupes sociaux entiers. Et c'est devenu un enjeu politique pour les élections qui ont suivi. Donc, on voit bien comment ces intellectuels sont un peu des lanceurs d'alerte, comme on dit aujourd'hui, par rapport à des moments où la démocratie s'endort, où les régimes politiques deviennent conservateurs, où des forces ou des lobbies empêchent la vérité d'éclater. Et je pense que toutes ces questions sont tout à fait d'actualité. L'actualité du jour le dit nous-mêmes.
Le lanceur d'alerte est un descendant de l'intellectuel à la française, né au moment de l'affaire Dreyfus.
En tout cas, il y a des points communs, c'est-à-dire la volonté de sortir de l'information officielle, la volonté de percer des secrets bien gardés, la volonté de s'appuyer sur des principes moraux pour juger de l'action des gens, la corruption, etc., l'abus de position dominante. Donc, il y a des valeurs communes, effectivement, aux lanceurs d'alerte actuels et à ce que voulaient les intellectuels de la fin du 19e siècle.
On repasse au standard de France Inter. Bonsoir Jean-Paul.
Bonsoir.
Vous nous appelez des Yvelines, nous vous écoutons.
Voilà. Je voudrais partir d'un constat. Dans les années 60, une majorité d'intellectuels, une grande majorité, était de gauche, à part quelques cas isolés tels Raymond Aron. Or, on peut constater qu'actuellement, la situation a quand même nettement évolué. On voit des gens comme, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, qui sont venus de gauche d'ailleurs, et qui sont passés à droite. Alors, je voudrais savoir comment peut-on expliquer cette évolution, et d'autre part, pourquoi ne se sont-ils pas excusés de s'être trompés, puisqu'on nous a trompés quand même pendant une cinquantaine d'années sur le communisme, etc. Donc, quand on parle de lanceur d'alerte, je veux bien, mais enfin, les intellectuels ne sont pas nécessairement des lanceurs d'alerte, mais peut-être des gens qui trompent le monde.
Beaucoup de choses dans cette question, Jean-Paul. Merci de l'avoir posée. Laurent Jean-Pierre voulait commencer à y répondre.
On y a un peu répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que effectivement, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle intellectuel. On retombe toujours un peu sur cette question. Hein. Là, je crois que dans la question qui a été posée, il y a une réduction, disons, du monde intellectuel au monde intellectuel médiatique. Hein. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est précisément de montrer que la vie intellectuelle est beaucoup plus riche que sa face, disons, que ce qu'on en voit, c'est-à-dire que sa face purement spectaculaire, qui effectivement est centré aujourd'hui dans quelques médias, peut-être sur des intellectuels qui sont réactionnaires et qui, eux, selon l'auditeur, si j'ai bien compris, disons, se tromperaient moins. Mais en réalité, dans chaque période, les deux camps sont représentés. Et le problème de la disparition des intellectuels de gauche, la disparition apparente des intellectuels de gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a essayé de s'interroger plutôt sur le rapport entre le monde médiatique et le monde intellectuel. je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup moins de journalistes de gauche en réalité. Hein. Et donc, journalistes de gauche qui donnaient une voix à des intellectuels de gauche dans les années 50, 60, 70, et en réalité aujourd'hui qui leur donnent probablement moins de voix. Voilà. Alors sur la question de la tromperie des intellectuels, bon, il y a quelque chose...
Oui, des erreurs à la tromperie, en tout cas.
Il y a quelque chose de sain à penser ça. C'est évident que, bien sûr, les intellectuels n'ont pas le monopole de la vérité. Quand ils s'engagent en politique, ils peuvent faire des erreurs. Bon, voilà, mais la vie intellectuelle, une fois de plus, se réduit pas à la question de l'engagement public des penseurs. Ce qu'on essaie de traiter, c'est l'activité de pensée en général, et dans l'engagement politique, l'expression des opinions, évidemment, peut être une source d'erreur pour les intellectuels, comme pour tous les autres. On a essayé de désacraliser, justement, cette figure de l'intellectuel.
Et est-ce que, au terme de ces deux volumes, vous avez une réponse à la question que posait Jean-Paul également? Comment se fait-il que des gens très à gauche soient devenus très à droite intellectuellement, Christophe Charles?
Je crois que c'est lié justement peut-être à l'intensité qu'ils avaient mise dans leurs premiers engagements et qui était parfois fondée effectivement sur une illusion qu'ils se faisaient eux-mêmes sur les causes qu'ils avaient embrassées. Et du coup, une fois qu'ils ont eux-mêmes été convaincus qu'ils s'étaient trompés, ils ont voulu en quelque sorte payer leur péché en faisant l'inverse complet et en reprenant des positions tout à fait inverses pour une sorte d'excuse ou de... pour se faire excuser de leurs erreurs.
Mais c'est pas simplement un effet de l'âge.
Non, il y a, je crois, on connaît des gens très bien connus qui ont effectivement changé complètement. Pensez à Roger Garaudy, des gens comme ça qui étaient communistes et qui sont ensuite arrivés sur des positions extraordinairement inverses à la fin de leur vie. Mais je crois que ça, c'est des cas extrêmes et que beaucoup de gens qui effectivement ont pu avoir des déceptions par rapport à des engagements de jeunesse ont pu aussi revenir sur des positions, disons, modérées, intermédiaires, sans forcément aller à l'autre extrême. Et évidemment, c'est moins spectaculaire, donc on en parle moins. Hein, c'est comme les hommes politiques qui changent complètement de camp. Hein, on en a eu aussi des exemples. On parle toujours de ceux qui passent d'un extrême à l'autre, mais il y en a beaucoup qui finalement se regroupent plutôt au centre. Donc, il ne faut pas non plus avoir une vision trop caricaturale de ces phénomènes.
La parole à Véronique. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous Merci vous écoutons.
Pour mon appel.
Je vous en prie.
Écoutez, quand vous avez cité le titre de l'émission de ce soir, j'ai cherché dans ma tête des noms et je n'en ai trouvé aucun. Je remontais plutôt à Pierre Bourdieu, on est dans les années 90. Encore plus en arrière, évidemment, on pense à Jean-Paul Sartre, à Albert Camus, évidemment d'autres acteurs, peut-être pas forcément des littérateurs, mais des gens comme Boris Vian qui pouvaient aussi faire secouer les méninges des gens. Et puis là, j'en trouvais aucun. Je ne trouvais que des gens qui ou m'effraient ou m'embarquent. Je pense à Éric Zemmour, par exemple. Et je me dis, mais qui sont nos intellectuels français aujourd'hui? Alors je me réfugie vers Edgar Morin, Stéphane Hessel qui n'est plus là, mais je ne trouve pas.
Merci donc, Véronique.
Donc, quels sont-ils? Voilà.
Merci Véronique pour cette question. Je donne la parole à Philippe également. Philippe de Grenoble, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, je rejoins exactement Véronique. En fait, moi, je m'étais dit, où est la fertilisation aujourd'hui? Parce qu'on nous parle, on se réfère toujours à Jean-Paul Sartre, les Lumières et compagnie, mais aujourd'hui, qui... Où sont nos intellectuels? Et je pense qu'il y a un problème de fertilisation. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, je suis complètement d'accord avec Véronique.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe et Véronique, pour cette question. La question qui veut y répondre? Laurent Jean-Pierre, pour commencer. Christophe Charles. Laurent Jean-Pierre.
Là, on a eu l'exposition d'un panthéon personnel. Ce qu'on a essayé de faire, justement, je pourrais inviter les deux auditeurs à regarder les index de nos livres, mais ça serait de la publicité peut-être trop directe. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a essayé de faire, justement, c'est de pas poser cette question du panthéon, parce que justement, un des enjeux d'une histoire de la vie intellectuelle ou de la société intellectuelle, c'est de parler à la fois des personnes très visibles, très connues, des personnes très créatives, mais aussi des anonymes qui sont absolument nécessaire au développement de la vie des idées, et donc de cesser, disons, cette logique du palmarès qui gouverne un peu notre appréhension de la culture, de la vie des idées en général, pour restituer des collectifs, etc., etc. Alors bon, chacun peut produire son panthéon à partir de là, mais pour produire un bon panthéon, il faut déjà avoir une connaissance ou en tout cas un accès à l'ensemble de, enfin, à la grande, à la grande à ce qui est produit très, 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 très largement. Donc c'est cet accès qu'on a essayé de ménager oui. avec ce livre, c'est rendre accessible la vie intellectuelle plutôt que de chercher des maîtres à penser, des guides, des gourous éventuels, des lumières incarnées qui, de toute façon, vont d'une manière ou d'une autre finir par décevoir ou finir par mourir. Donc il vaut mieux partir d'une idée beaucoup plus ordinaire, hein, d'un accès beaucoup plus ordinaire à ce monde intellectuel plutôt que de chercher à tout prix des grandes figures.
Christophe Charles, sur la question qui ?
Alors justement, je crois que c'est parce qu'on est trop le nez sur ce qui se passe en ce moment qu'on ne voit pas ces nouvelles pensées, ces nouveaux intellectuels qui sans doute existent mais qui n'ont pas encore atteint à la notoriété des personnages dont on a parlé. Il faut quand même rappeler que c'est des générations qui ont eu la chance ou la malchance de vivre dans des périodes très troublées où du coup il y a eu des phénomènes de changement de génération très rapides. Hein. Des gens comme Albert Camus ont été connus très jeunes et ont acquis une notoriété immense parce que toute une génération antérieure avait été éliminée à cause des événements liés à la guerre. Et du coup, très vite, il avait connu une audience. C'est pareil pour Jean-Paul Sartre, etc. Si on prend quelqu'un comme Pierre Bourdieu, finalement, sa période vraiment d'engagement et de visibilité politique et médiatique, elle est tardive par rapport à sa carrière, puisque c'est pas avant qu'il ait 60 ans qu'il est vraiment devenu quelqu'un de très central dans les grands clivages qui marquent la vie des années 90. Or, il avait fait bien d'autres choses avant, et avant, on le considéré d'abord comme un savant, comme un chercheur et pas comme un intellectuel au sens médiatique. Donc je crois que c'est pareil, il y a un temps de latence et puis nous avons aussi une époque où malheureusement les gens vivent vieux et où du coup une génération s'installe et s'est installée depuis assez longtemps, depuis les années 60 et a du mal à lâcher prise.
Vous parlez de Laurent Jean-Pierre.
Non,
là.
Non, je parle
ah non, vous
pas
parlez de vous.
Je parle de moi en particulier, mais non, j'en parle de d'autres. Donc il y a un décalage par rapport à ces autres périodes où la longévité intellectuelle était beaucoup moins grande. Du coup, il y avait un renouvellement peut-être plus rapide et une visibilité plus rapide des nouvelles générations. Alors, je n'ai rien contre les gens âgés, mais c'est vrai que peut-être ça fait de l'ombre à des gens plus jeunes, moins connus, mais qui travaillent et qui vont arriver, je pense,
alors,
au premier plan assez vite.
La question n'est-elle pas, du coup, où plutôt que qui, Laurent Jean-Pierre ? Où se passe la vie intellectuelle aujourd'hui ?
Oui, alors bon, je pense qu'elle se passe là où elle s'est toujours passée, dans une certaine mesure. Hein. Alors, dans votre question, il y a, elle se passe évidemment dans le monde de la recherche, dans le monde de l'art, dans le monde littéraire, dans le monde philosophique. On a essayé justement de décrire tous ces mondes en montrant que, le fait que ces mondes soient devenus de plus en plus grands, qu'ils soient de plus en plus peuplés, évidemment, a changé aussi les conditions de la créativité, parce qu'on sait, bon, c'est de la psychologie de la création relativement simple, que pour que des idées nouvelles émergent, il faut que des idées qui existent déjà et qui sont plutôt éloignées s'entrechoquent. Bon, alors si les mondes intellectuels
expliquez-nous ça.
Bah la créativité, c'est en gros faire venir, je sais pas, une idée des mathématiques dans le domaine de l'histoire ou faire venir une idée de l'histoire dans le domaine de la biologie. C'est ça souvent la création, c'est faire se déplacer des idées qui ont été produites dans un lieu particulier, dans un lieu qui lui est relativement éloigné. Bon, si le monde intellectuel est fragmenté parce qu'il est peuplé de plein de petits mondes qui sont eux-mêmes de plus en plus peuplés, eh bien, il y a moins ces frictions, ces interférences, ces circulations qui rendent possible effectivement une grande créativité. Mais en tout cas, bon, on a essayé de décrire tous ces mondes, mais derrière votre question, il n'y a pas que la question effectivement de où est-ce que c'est les scientifiques, les philosophes, les littéraires ou les artistes, il y a aussi la question géographique. Et c'est vrai qu'une des spécificités de la France, je reviens sur une de vos questions antérieures, hein, on n'a pas cherché un génie national, mais par contre, on s'est attaché à décrire, bon, au fond, des spécificités françaises qui sont à la fois probablement des facteurs de richesse intellectuelle, mais aussi des freins à la créativité. Et parmi ces freins et ces facteurs de richesse, il y a la concentration de la vie intellectuelle à Paris, le centralisme parisien. Donc, il est vrai que pour des raisons à la fois historiques de longue durée qui n'ont pas été corrigées par les politiques successives de décentralisation qui ont malgré tout existé, eh bien, pour des raisons historiques de longue durée, il est vrai que la vie intellectuelle française est très largement concentrée à Paris et que c'est probablement un de ces problèmes.
C'est une question de Marc. Est-ce que les concentrations des intellectuels dans les grandes villes ne contrastent pas avec les petites villes de province ? On peut aussi s'interroger sur la culture et la montée du Front National, nous dit Marc. Il y a, comment dire, aussi une question de masse critique, non, dans la vie intellectuelle. C'est-à-dire que au moment de la Révolution française, au moment de l'affaire Dreyfus, peut-être aujourd'hui aussi, il faut qu'il y ait énormément de monde qui travaille intellectuellement pour qu'il se passe quelque chose, non ?
Oui, il faut aussi, surtout, il y a cette communication dont parlait Laurent Jean-Pierre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la communication est instantanée, innombrable, etc. Mais en même temps, il y a quand même des organes qui sont plus efficaces que d'autres. On sait très bien que quand on regarde l'audimat de certaines chaînes de télévision, de certaines chaînes de radio, il y a des écarts considérables par rapport à des chaînes plus confidentielles. Et c'est vrai que si on veut que des idées aient un impact, il faut avoir accès à ces centres et à ces lieux qui diffusent largement. Et c'est vrai que dans les endroits dont vous parliez, les petites villes, les villes moyennes, il y a un peu de presse, mais il n'y a pas ces grands organes qui permettent très vite de toucher beaucoup de monde. Donc ça crée effectivement sans doute un sentiment d'oubli ou un sentiment de décalage par rapport aux centres principaux. Et c'est vrai que c'est parfois un souci et en tout cas une source d'aigreur ou de regret pour ceux qui souhaiteraient se faire entendre mais qui n'ont pas accès à ces grands médias.
Je vais donner la parole à Victor, mais encore une question. Question sur les médias. L'affaire Dreyfus se joue pour partie dans la presse.
Tout à fait, oui.
Christophe Charles. Donc la question de la médiatisation de la vie intellectuelle est quasiment parallèle à la vie intellectuelle elle-même.
Oui, dans la mesure où les gens qui veulent défendre des idées ou qui croient à leurs idées pour les faire partager avec d'autres, ils ont besoin bien sûr d'outils. Et pendant le 19e siècle et au moment de l'affaire Dreyfus, c'est vrai que le seul moyen, c'était la presse. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de canaux possibles, mais il y a quand même à l'intérieur de ces canaux nouveaux, des hiérarchies. Il est vrai que ce n'est pas la même chose d'avoir accès à un site internet qui est vu par des millions de gens ou qui ne prêche que des convaincus. Donc tout ça, effectivement, ça a un effet tout à fait important sur la visibilité des idées, sur leur capacité d'innerver la société et de changer les choses.
Sur la vie médiatique et la vie intellectuelle qui marchent en parallèle, Laurent Jean-Pierre.
Alors vous avez raison, hein, on a essayé de les traiter en même temps, mais ce qui est effectivement, sur la période la plus récente, bon, ce qu'on a essayé de montrer, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une spécialisation d'une fonction nouvelle que certains ont appelée l'intellectuel médiatique, c'est-à-dire effectivement des producteurs d'idées qui se spécialisent dans cette, disons, présence dans les médias au détriment
Leur
de tout autre.
C'est d'être dans les médias. C'est
au détriment de toute autre activité, quoi, d'une activité fondamentale ou d'une activité première qui serait effectivement une activité de recherche, de création, etc. Et donc ça, c'est un phénomène peut-être nouveau. Bon, on appelait ça des publicistes autrefois, hein, mais
donc voilà. C'est pas si nouveau.
Non, mais ce qui est nouveau, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui s'est créé entre le monde du journalisme et ce monde des idées, avec des positions un peu tierces, avec des passages, hein, des journalistes qui deviennent intellectuels ou en tout cas qui deviennent des gens très présents dans l'espace public pour exprimer leurs idées. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau, et bon, probablement aussi le fait que la visibilité médiatique a des effets en retour, hein, sur les possibilités de créer, les possibilités d'être financé, les possibilités d'exercer son travail de penseur ou de créateur.
Victor, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, vous avez la parole.
Alors en fait, le sens de ma question, c'est de savoir, est-ce que la France n'avait pas une pensée régressive quand elle était, entre guillemets, en régression géographique, ou quand elle doutait d'elle-même, et est-ce qu'elle n'avait pas une pensée progressiste ou progressive quand elle rayonnait ou quand elle avait une grandeur géographique. Parce que historiquement, quand on regarde, quand la France se sentait menacée par Charles Quint ou quand elle se sentait menacée sur la Révolution française, elle se contractait. Elle se méfiait des Bretons, des Alsaciens. Et aujourd'hui, dans une mondialisation où finalement la France est en concurrence avec tout le monde, est-ce que ça n'a pas justement poussé à cette régression finalement de la pensée? Et deuxième question, c'est est-ce que finalement cette question de la pensée française n'est pas aussi auto-centrée et pas assez aérée par rapport à d'autres cultures locales ou internationales?
Merci Victor pour cette double question. Alors sur le progressisme et son articulation à l'histoire, Christophe Charles.
Oui, c'est clair que les périodes où les Français, disons, sont dans une humeur optimiste, ou enfin, en tout cas ils croient en eux-mêmes, favorise bien entendu des idées un peu plus novatrices et bouleversantes. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus voir ça de façon mécanique. Je prendrai comme exemple la position de la France après 1870, qui a subi une défaite et où il y a toute une humeur assez négative, comme je l'avais dit tout à l'heure. On a au contraire un moment où il y a une mobilisation des intellectuels pour essayer justement de redresser la barre, pour essayer de faire passer des réformes grâce au changement de régime républicain et pour aller de l'avant en proposant un grand programme culturel de diffusion du savoir à travers l'école primaire, à travers la réforme des universités, à travers le rayonnement de ces universités à l'international. Donc, il y a aussi des effets positifs, paradoxaux du l'échec, parce que on se remet en cause et on essaye de prendre des exemples, justement, sur l'étranger pour aller de l'avant. C'est la même chose qui s'est passée au moment où le général de Gaulle prend le pouvoir en 58. C'est l'échec des guerres coloniales, c'est le bouleversement politique lié au changement de régime qui va permettre au général de Gaulle de faire entrer la France dans toute une série d'innovations politiques et de modernisation sociale ou économique. Donc, il n'y a pas forcément un lien mécanique entre des moments d'échec ou de régression et une capacité de rebond. Au contraire, il peut y avoir un rebond grâce à l'échec.
Laurent Jean-Pierre.
Oui, rapidement, c'est vrai que dans le lamento dont vous parliez au début de l'émission, il y a quand même l'observation que la France a perdu sa centralité dans le monde des idées à l'échelle internationale, qu'elle n'est plus un centre hégémonique et qu'elle est probablement une plaque tournante d'idées qui viennent de plusieurs continents. Alors est-ce qu'il faut le déplorer? C'est pas notre, nous on le déplore pas, mais effectivement il y en a beaucoup qui le déplorent et qui l'observent en étant moins invités à l'étranger et qui finissent par se lamenter du déclin de la pensée française.
Dans les médias. Merci Laurent Jean-Pierre, merci Christophe Charles, merci à tous les deux pour ce livre absolument monumental, La vie intellectuelle en France, 19e-21e siècle, 2 volumes aux éditions du Seuil, 2 volumes que vous avez codirigés, donc Christophe Charles et Laurent Jean-Pierre. Amis auditeurs, c'est un très très bon cadeau de Noël. Le journal dans 2 minutes.